et médias francophones publics.
Radio France, RTBF,
Radio-Télévision Suisse,
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, soyez les bienvenus dans la librairie francophone. Aujourd'hui, un grand voyage à travers l'Asie avec l'expatriation d'une grande journaliste française au Japon, les carnets de voyage d'un Suisse du côté de la Thaïlande, l'hommage à une grande écrivaine québécoise disparue cette semaine et une séquence livre de poche. Voici le sommaire de cette édition.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
La journaliste française Patricia Loison raconte dans un livre ses 3 ans d'expatriation au Japon, un témoignage et une analyse en immersion sur le chemin de la sagesse. Le Suisse Blaise Hoffmann décrit quant à lui 7 mois de voyage avec sa famille, un récit qui pointe la mondialisation, qui modifie le voyage avec une foule de petites histoires dépaysantes. Nous rendrons hommage aussi à Marie-Claire Blais, disparue cette semaine à l'âge de 82 ans, une grande personnalité québécoise qui a marqué la littérature francophone. Nous serons avec son éditeur Jean Bernier depuis Montréal et avec le poète et écrivain canado-haïtien Rodney Saint-Éloi. Et puis une séquence livre de poche avec Jean Tellet qui raconte Baudelaire comme personne, caustique, réaliste et percutant. Et les libraires sont avec nous comme chaque semaine, ils interviendront tout au long de cette émission. Bonjour Déborah Damblon.
Bonjour Emmanuel.
Vous représentez la Belgique, vous êtes toujours libraire dans la librairie Le Public par filigrane, jeune librairie ouverte il y a quelques mois seulement. Pour la France, on retrouve Mathieu Colombe de la librairie Goulard à Aix-en-Provence, avec juste en face de la librairie le marché de Noël provençal qui attire les foules chaque année. Bonjour Mathieu.
Et bonjour Emmanuel.
Quel est votre stand préféré à ce marché de Noël, vous?
Je ne saurais lequel choisir. Vraiment, je peux pas me décider.
C'est vrai, les 100 ans peut-être.
Oui, mais c'est pas au même endroit.
Bon, allez, merci d'être avec nous. Bonjour Dominique Bressou.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire en Suisse dans la librairie Une Petite Prose à Boudry. Il y a un marché de Noël à Boudry?
Ah non, je ne crois pas.
Ah, vous avez échappé à ça.
Je suis pas au courant.
Bon, va falloir vous renseigner quand même. Enfin, ouais, pour peut-être. Le Canada, c'est Mike Viennot et sa librairie Monet au nord de Montréal avec de la neige autour. Bonjour Mike.
Bonjour.
On vous retrouvera dans l'émission de Noël que nous préparons actuellement avec plein de surprises. Et aujourd'hui, vous allez nous raconter une anecdote de libraire en ce début d'émission.
Oui, bien sûr, puisqu'on a parlé de Marie-Claire Blais, je vous raconte une histoire. Je me souviens d'avoir lu une saison dans la vie d'Emmanuel au collège et j'avais pas été impressionné. Puis un jour, j'étais membre d'un jury qui remettait un grand prix et Marie-Claire Blais était là. Et là, j'ai saisi toute la force tranquille, toute la présence discrète de cette dame. Je me souviens surtout qu'elle était impressionnante à un tel point qu'une autre autrice, très connue ici, a dit « Je peux pas aller la voir, je suis trop impressionné, trop intimidé ».
Oui, c'est vrai qu'elle dégageait quelque chose de particulier, Marie-Claire Blais. Moi, je me souviens avoir bu un verre de vin avec elle il y a 3 ans au Salon du Livre de Montréal. Elle était d'une gentillesse incroyable et personne n'osait nous approcher. Comment ça se fait?
Je sais pas, il y avait une aura, il y avait quelque chose autour de cette dame-là, un genre de pudeur qui faisait qu'on avait un peu de difficulté à aller briser cette présence-là.
Bon, on parlera d'elle tout à l'heure. Merci pour cette histoire, Mike.
Je reviens te chercher. Je savais que tu m'attendais. Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un de l'autre longtemps. Je reviens te chercher. Mais tu vois, j'ai pas trop changé. Et je vois que de ton côté tu as bien traversé le temps. Tous les deux, on s'est fait la guerre. Tous les deux, on s'est bien ruiné ou volé. Qui a gagné, qui a perdu, on ne sait rien, on ne sait plus. On se retrouve les mains nues. Mais après,
sur cette musique de Luz Casal que vous avez choisie comme BO de votre livre. Bonjour Patricia Loison.
Bonjour Emmanuel Carr.
Merci d'être avec nous. Vous êtes une journaliste française connue des téléspectateurs français. Vous avez quitté l'antenne de France Télévisions un jour pour partir au Japon. Votre conjoint a une opportunité professionnelle alors que vous vous lancez dans le doute, hein, finalement, parce que le doute est là. Vous avez fait ce que bon nombre d'entre nous rêvons, tout quitter pour une vie différente, plus apaisante. Quel est le déclic à ce moment-là?
Un peu ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que nos métiers respectifs, même si on a d'autres, surtout en ces temps d'épidémie qui sont stressants, on va pas se plaindre, mais c'est des rythmes assez tendus, assez forts, assez soutenus. On est dans l'actualité jusqu'au cou du soir au matin. On écoute votre matinale, on lit les journaux, on écoute notre 13h, on appelle nos invités. On voit pas beaucoup sa famille, ça mange beaucoup de temps. Et j'ai pas faire d'anglicisme dans votre émission, une petite sonnette à l'arrière de ma tête qui me disait il serait temps que tu prennes le temps.
Un petit warning, c'est ça que vous voulez dire?
J'ai rien dit, c'est vous qui l'avez dit. Et du coup, quand l'opportunité s'est présentée, on s'est dit on prend le train et le Shinkansen en l'occurrence, et on y va.
Alors vous inscrivez vos enfants à la Canadian Academy à Kobe, une école chic, de luxe, on va dire, fondée en 1913 au Japon. C'est le résultat au test d'entrée qui va conditionner aussi votre départ. Et vos filles ont réussi ce test, donc vous y allez. Et vous dites que votre passion pour ce métier de journaliste, dans l'audiovisuel de surcroît, avait absorbé la majorité de votre temps au détriment de votre famille. Et vous voulez vous retrouver en fait avec...
Oui, c'est ça, c'était une espèce de parenthèse enchantée, déjà parce que comme vous le soulignez, on a vécu dans des conditions très choyées, très privilégiées, sans être ostentatoire. Le simple fait d'avoir du temps, pour moi, était assez miraculeux, et un emploi du temps de femme au foyer désespérée qui pourrait effrayer certaines me réjouissait absolument, c'est-à-dire me réveiller avec mes enfants, moi qui étais juste pendant des années une mère indigne, en tout cas au niveau de l'emploi du temps, les emmener à l'école, discuter avec elles, faire partie des parents de l'école, organiser très sérieusement des cafés, faire des tartes aux pommes, était une bouffée d'oxygène et de nouveautés formidables.
Alors là-bas, votre identité professionnelle se dissout, dites-vous. Non seulement vous n'êtes plus reconnue par votre nom ou par votre visage, mais en plus vous êtes la femme d'eux. Mmh. Car vous dites qu'au Japon, la femme n'est pas considérée comme l'égale de son mari. Et ça ne vous révolte pas, ça, Patricia?
Alors déjà, ça nous fait comprendre que malgré tous les discours qu'on tient régulièrement à nos micros, à nos antennes, avec nos invités, que en France, même s'il y a encore des choses à faire, on a une condition féminine qui est quand même assez... rare, et enfin voilà, comme dans le monde occidental, et qu'il faut reconnaître à sa juste valeur, même s'il y a encore des combats à mener. On l'a vu récemment,
on le voit régulièrement,
plusieurs affaires.
Mais ça vous a fait réagir quand même, ça vous a fait réfléchir.
Ça m'a fait réfléchir, et puis mais surtout, alors il y a deux choses. Il y a le fait qu'effectivement au Japon, les femmes, c'est beaucoup l'apparence, l'accueil, la discrétion. Mais comme beaucoup de sociétés où les droits des femmes ne se sont pas encore acquis dans la loi, la femme fait quand même énormément la loi à la maison. Donc ça, je le dis peut-être pas forcément dans le livre, mais par exemple, au Japon, peu de femmes travaillent. En tout cas, dans les milieux privilégiés, peu de femmes travaillent. Elles élèvent leurs enfants. Quand le mari rentre à la fin du mois, il donne son salaire en liquide son épouse, qui lui rend gentiment, voilà, en feuilletant bien sa liasse, son argent de poche pour le mois.
Ah, elle donne à son mari.
Elle donne à son mari la plupart du temps l'argent de poche.
Vous avez fait ça avec votre conjoint?
Jamais. Parce que moi, il me ramenait pas de liasse en liquide, donc on avait des virements bancaires. Mais pour les gens qui touchent leur salaire comme ça, ça se fait encore beaucoup.
D'accord. En parallèle de ce récit très personnel, Patricia Loison, vous écrivez de petites nouvelles inspirées par les événements historiques du Japon. C'est assez bien vu, assez bien fait d'ailleurs, parce qu'en alternance, on peut, découvrir aussi un peu de fiction. Comme ces deux enseignants qui vivent avec leurs élèves la catastrophe de Fukushima, et qui doivent faire des choix. On vous a raconté de telles histoires?
Oui. On m'a raconté l'anecdote, parce que c'est un événement. Les Japonais, on n'aime pas parler de malheur, parce que quand vous parlez de malheur, ça veut dire que vous le transportez avec vous et que vous attirez soit la foudre, soit la honte sur vous. Donc faut vraiment tisser des liens pour avoir ce genre d'anecdote. Donc voilà, et puis ils n'aiment pas parler de ça. Mais j'ai reçu cette anecdote, je dis reçu parce que c'était vraiment un cadeau, d'un professeur qui a été montré du doigt doigts et laissé à l'écart après le tsunami parce qu'il n'avait pas obéi aux consignes. Il voyait que le fait de rester dans la cour, on courait à la catastrophe parce que quasiment au bout d'un moment, de leurs yeux, on pouvait voir ce qui allait se passer. Et cet instituteur a fait des pieds et des mains pour prendre un maximum de petits bonhommes et de petites bonnes femmes sous le bras et de se mettre en hauteur. Et cette école, à part les élèves qui ont été sauvés par ce professeur, tout le monde est mort. Et lui, il est hué, entre guillemets, parce
alors que c'est un héros.
Alors qu'il a sauvé des vies, parce qu'il n'a pas obéi à la règle.
N'avez-vous pas eu peur de vous installer au Japon, où malgré les dissimulations politiques locales, on sait que toute la chaîne alimentaire est contaminée? Il y a des pommes, par exemple, sur le marché, vous parlez de cet épisode, qu'on vous conseille de ne pas acheter. Alors, mais il y a autre chose, l'eau est contaminée. Les médecins disent d'ailleurs, certains médecins disent en France, qu'il faut éviter de rester plus de 15 jours au Japon.
Ouais, alors ça, moi je m'élève en faux contre ça. Quand on est à toute la polémique sur les eaux rejetées dans la centrale, en France aussi, il y a des centrales ou d'autres usines qui rejettent non pas des polluants absolus, mais en plus le système, c'est pas l'eau qui a été contaminée par les radiations qui est rejetée telle quelle dans l'océan au Japon, c'est quand même un petit peu plus subtil que ça, même si c'est pas complètement aux normes. Tous les aliments ne sont pas contaminés. Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, autour de Fukushima, il y a une zone où on ne peut pas aller, où c'est dangereux, comme à Tchernobyl, où ça prendra des années avant de se régénérer. Mais le reste du Japon est sécurisé.
Enfin, c'est plutôt sain, donc.
C'est plutôt sain, et c'est surtout la peur, quoi. Ces pommes, elles sont bonnes, on peut les acheter. En plus, elles sont en promotion, il faut en profiter.
Mais elles viennent de Fukushima, celles-là.
Elles viennent de Fukushima, elles viennent de la région, mais elles ne viennent pas à côté de la centrale, quoi.
Oui, mais bon, il y a des résidus dans les sols, Patricia. C'est sûr.
Bon. Moi, j'en ai mangé, je suis encore là. Est-ce que j'irradie ou pas?
Je sais pas. Pour l'instant, ça va. Allez, les libraires avec la Belgique et le Canada qui ont lu votre livre, Patricia Loison. La Belgique, tout d'abord, avec Déborah Damblon.
Eh bien, Madame Loison, vous n'êtes pas qu'une femme d'écran. Vous avez aussi et vraiment une plume. Et grâce à elle, à petites touches, avec des petits détails choisis, ben, vous arrivez à nous faire vraiment prendre l'air du temps. Vous parvenez à nous entraîner dans votre récit dont, je vous l'avoue, au départ, je ne voyais pas tout à fait l'intérêt. Et puis, finalement, sous ces dehors de témoignages, eh bien, on sort de la lecture avec une somme de réflexions assez conséquentes, bon, même si elles sont parfois un petit peu décousues.
Bien. Le Canada, Mike Viennot, êtes-vous d'accord?
Oui, ben en fait, ce récit sur ce moment de vie au Japon parvient à être intéressant par fragments. Si parfois les liens entre la narratrice et les autres sont décrits avec économie et justesse, à d'autres moments, on nage un peu dans la banalité. Si on écarte quelques maladresses et effets inutiles, bon, par exemple, on n'a pas besoin de mettre l'accent sur le fait qu'on dise « tomber en amour au Québec », je dirais que ce livre se lit assez agréablement comme un journal de voyage.
Ben, elle utilise des expressions québécoises, pourquoi pas, non?
Oui, c'est correct, mais on met l'accent sur quelque chose que l'on dit qui est assez banal.
Ouais. Patricia Loison, pourquoi effectivement vous avez utilisé cette expression?
Parce que je trouvais qu'elle collait bien avec le sentiment de tomber amoureux d'un pays. Je trouvais que tomber en amour, c'était plus joli.
Bon, on est intransigeant ici. Hein,
vous avez raison, je suis déjà extrêmement honorée d'être là. Donc merci à vous d'avoir lu mon livre, ça me touche beaucoup.
On verra avec la Suisse tout à l'heure si elle est d'accord. Vous évoquez le tremblement de terre de Kobe aussi. Là encore, par une nouvelle, puis par votre récit sur place, à la moindre secousse, vous dites être pétrifié. Vous dites aussi que c'est plus que le mouvement, c'est le son qui s'imprime en vous.
Exactement, oui. Quand on a eu... Bah déjà, je remercie encore les deux libraires parce que je redoutais aussi, moi, que mon récit soit extrêmement banal. Donc je suis ravie qu'il ne le soit pas tant que ça et qu'on ait quand même le sentiment de voyager avec moi. Mais c'est aussi mon quotidien que je voulais partager. Et parmi ce quotidien, dans l'extraordinaire, c'est de danser sur un volcan et d'être tout instant... possiblement menacée, donc je sursaute au moindre bruit, je me couvre de ridicule dans mes premiers pas. Ouais. Mais quand le son que vous décrivez, c'est ce tremblement de terre qu'on a vécu, on dort encore à moitié et je me souviens me dire, et je le dis dans le livre, je crois très sérieusement, pourquoi il y a cette moissonneuse-batteuse qui passe sous... Vous savez, quand on est dans un demi-sommeil, pourquoi cette moissonneuse-batteuse passe sous la maison? Et vous posez sérieusement la question.
Ce n'est pas une moissonneuse-batteuse.
Il n'y a pas de moissonneuse-batteuse, je suis loin de chez moi et je n'ai pas de cave. Donc, c'est ce bruit-là, quoi. C'est vraiment l'espèce de foreur fou qui passe et qui fait vibrer tout votre corps d'inquiétude.
Il y a aussi un chapitre nommé « Devoir de mémoire ». Hiroshima, situé à 1h30 de Kobe en train. Vous y allez. Vous pouvez nous décrire, Patricia Loison, ce que vous voyez sur place Et ce qui vous a frappé, vous avez le souvenir là ?
Vous parlez de la coupole, oui, qui est restée, oui, comme rigidifiée, mmh, après les radiations. Ouais, j'ai trouvé qu'il faisait tout pour éviter le drame, encore une fois.
Vous arrivez... Racontez, qu'est-ce que vous voyez quand vous arrivez ?
On voit un palais qui ressemble au Sacré-Cœur, dont il ne reste plus que les murs et des espèces de béquilles en ferraille. Et c'est le seul bâtiment qui soit resté debout après le largage de la bombe. Et ce jour-là, il y avait une sorte d'exposition dans la ville avec des ateliers gourmands, il y avait de la pâtisserie, il y avait des innovations technologiques, tout le monde était sur son 31 et en quelques secondes, c'est parti. Mmh. Et ça, ce monument, c'est lui qui ouvre ce qu'on appelle le parc de la paix et le parc du mémorial d'Hiroshima. Mmh.
Dans votre nouvelle En parallèle, il y a cette terrifiante histoire où les habitants sont soudainement enveloppés d'un air brûlant, dites-vous, on le ressent hein, quand on lit votre texte. Au mémorial, il y a un écran qui diffuse des témoignages atroces et on y montre aussi des vélos d'enfants tordus par la chaleur. On imagine ce que sont devenus les enfants en voyant les vélos. Et là, vous évitez de les regarder en fait.
Bah, au bout d'un moment, moi j'y étais au... Bah, on est journaliste, on est curieux, on aime, ouais, l'histoire, donc j'y étais plusieurs fois, puis c'était une chance entre guillemets d'être là-bas, donc... Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment de voir, alors il y a les vélos, il y a aussi des petits vêtements d'écoliers dont les boutons sont fondus, etc. Il y a des témoignages au bout d'un moment qui sont limite supportables.
Allez, la Suisse, Dominique Bressot, vous avez lu le roman de Patricia Loison, le récit Ceinture de soie.
Oui, et moi j'ai adoré ce livre.
Oh,
en fait.
Merci.
C'est le cri du cœur, elle a eu peur.
Non, l'effort d'avoir accepté de changer radicalement de vie sans savoir si votre carrière se laisserait mettre au repos quelques années, ça valait la peine. Et vos déambulations et surprises pas toujours agréables comme expatriés m'ont souvent fait rire. Mais moi ce que j'ai préféré, c'est votre façon de faire revivre des fantômes féminins dans un pays déjà discret sur ses habitants et encore plus sur ses habitantes.
Mais c'est vrai qu'il y a des moments où vous êtes expatrié un peu perdu. Par exemple, le fait d'enlever ses chaussures tout le temps, ça vous agace un peu. Alors les tongs, les claquettes et les sandales sont faites pour ça, hein, je vous dirais, Patricia Loison. Mais le chaussé-déchaussé, c'est pas votre truc.
Ah, mais vous parliez de l'hiver, Emmanuel. Vous voyez, ouais, en sandales dans Montréal pour sortir et retirer vos... Non, on peut pas
Claquettes-chaussettes
en... Claquettes-chaussettes, oui, c'est vrai. Voilà, la solution. Que ne l'ai-je imaginé. Non, ça c'est des anecdotes, mais c'est vrai que... Vous vous sentez des fois un peu idiot parce que vous vous précipitez dans un endroit puis ils veulent jamais vous dire pas faire. Donc ils vous font des petits signes, des petits gestes. Donc faut connaître toute la gestuelle pour dire mince, mes chaussures, mes chaussettes, les chaussons, laissez devant la porte dans le bon ordre. Juste une anecdote, quand on a déménagé, nos déménageurs entraient, se déchaussaient, reprenaient leurs chaussons d'intérieur, montaient les paquets, ressortaient, laissaient leurs chaussons, reprenaient. Enfin, ils sont dans le détail parfois assez fous.
Un livre à découvrir, Ceinture de soie, paru chez Fayard. Merci beaucoup Patricia Loison, vous allez rester avec nous.
Merci à vous.
Un petit moment dans l'émission. Le grand voyage en Asie continue tout à l'heure avec l'auteur suisse Blaise Hoffmann et son carnet de voyage. À suivre, un livre de poche avec Jean Tellet et notre hommage à Marie-Claire Blais avec son éditeur au Québec et l'écrivain poète canado-haïtien Rodney Saint-Éloi. Avant cela, voici Léonie Pernet dans la librairie francophone.
J'archive par couleur mes regrets. Dans l'eau des rêves, j'ai cueilli la promesse de l'aube inaccomplie. Les ombres sont en nombre, infécondes, elles se répondent. Les ombres sur moi, inféconde, elle nous répond. L'eau des rêves monte, le noir et blanc ça. Thank you.
C'était Léonie Pernet avec Il pleut des hommes. Avant de rendre hommage à Marie-Claire Blais, notre séquence livre de poche avec Jean Tellet pour son roman Crénom Baudelaire qui sort aux éditions J'ai lu. 2021 est l'année du bicentenaire de sa naissance. Voici Baudelaire selon Tellet et ses décapants.
Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio Canada.
Radio Télévision Suisse.
La librairie francophone. Emmanuel Quérade.
Jean Tellet, donc, après Verlaine et Rimbaud, vous vous attaquez à une autre grande figure de la poésie, Charles Baudelaire. Dans Crénom Baudelaire, vous racontez toute sa vie, en commençant par la fin, à la sortie d'une église de Namur, en Belgique, il tombe sur le front.
Il tombe sur le front et en tombant, il dit « crénom ». Comme nous, par exemple, si on faisant tomber un truc, on pourrait dire « oh merde ». Il tombe en disant « crénom », qui est la contraction de « sacré nom de Dieu
ouais. ».
Et il est resté bloqué sur ce mot pendant plus d'un an, jusqu'à sa mort, il n'a pas dit un autre mot que « crénom ».
C'est ça.
Et quand on a été l'Everest de la poésie, qu'on a tellement inventé de phrases, d'images et tout, terminer sur un mot aussi con, c'est quand même pas de bol.
Bon, Jean Tellet, vous décrivez Baudelaire comme un homme brutal sexuellement. Il va très loin, trop loin.
Oui, une de ses maîtresses dit de lui, avoir une relation intime avec Baudelaire, c'est comme une opération chirurgicale sans anesthésie. Et lui disait, la volupté jouit, gît dans la jouissance de faire le mal. Il adorait ça. Et puis, il n'aimait pas les femmes belles. Il préférait les moches et les maigres. Il disait que les femmes maigres étaient plus nues que les autres. Et la première qu'il a rencontrée était une petite prostituée juive qui louchait, qu'on appelait Sarah la louchette. Et il disait qu'il avait voulu d'elle parce qu'elle était comme une ficelle avec des nœuds. Mmh. Il aimait les femmes différentes. Après, il a vécu avec Jeanne Duval, qui était une très grande femme noire.
Grande histoire
d'amour. Ouais. C'est vraiment du niveau de Roméo et Juliette, c'est ça qui est incroyable.
L'éditeur hallucine avec lui. Il demande aux deux associés Poulet Malassi. Il s'appelait vraiment Poulet Malassi, l'éditeur.
Absolument. Et lui, il a vraiment toujours appelé que Coco Malperché. Et il disait qu'il n'avait pas de bol parce que son premier éditeur, quand il avait fait le compte-rendu annuel en 48 du salon de la peinture au Louvre, son premier éditeur s'appelait Jules Labitte. Le deuxième s'appelait Poulet Malassi. Les Fleurs du Mal étaient distribuées par la librairie Connard et Compagnie.
Non, c'est vrai.
Mais oui. Et à son procès, son procureur s'appelait Pinard. Il disait « Je suis maudit ». Et tout est vrai.
Bon, il y a des histoires incroyables. À un moment, Baudelaire donc demande à son éditeur, à ses éditeurs, ils sont deux, il demande de prévoir une édition spéciale avec une couverture en peau de gaupe.
Voilà.
Et alors la gaupe, c'est...
Une salope.
Non, la prostituée, genre.
Oui, bon, bah, une pute, alors.
Non, mais non. Une heure de grande écoute, genre. C'est une prostituée.
Oui,
c'est,
oui,
le,
voilà.
C'est la définition mais de gaupe à l'époque, c'est un mot ancien.
Mmh.
Et il veut, comme ça, avoir de la peau humaine.
Voilà. Et alors, il avait il se demandait laquelle. Il disait, si c'est la peau du dos, c'est peut-être mieux pour faire une couverture parce que c'est plus épais. Quoique ça soit peut-être trop fin, si c'est la peau des seins, ça pourrait être pas mal parce que le mamelon tanné, ça ferait comme un médaillon central au milieu de la couverture.
Il dit ce serait plus joli.
Ce serait, voilà. Mmh. Et son éditeur, là, lui avait dit, une phrase formidable, il avait dit « Mon cher Baudelaire, il y a des moments où je doute de votre état mental. Il y en a d'autres où je n'en doute plus. »
C'est la plupart du temps. Vous nous dégoûtez un peu de Baudelaire, parfois, Jean.
Mais il était comme ça. Une des caractéristiques quand même de Baudelaire, c'est que c'est un type qui est mort à 46 ans et qui n'a été adulte dans sa vie que un an et demi.
Oui, oui.
Puisque à 21 ans, il a touché l'héritage de son père qui était de 100 000 francs or.
Oui.
Ce qui correspond à maintenant à 5-6 millions d'euros.
Non, 500 000 euros à peu près.
Ah bon?
Oui, on a regardé, c'est à peu près 500 000 euros.
Et un an et demi, il en a dépensé la moitié claqué son fric. Et sa famille, son beau-père et sa mère, par décision de justice, l'ont mis sous curatelle et il est redevenu mineur. Quoi.
Alors, obsédé par le sexe, Charles Baudelaire, dès l'âge de 5 ans même, vous le dites, il est amoureux de sa mère et ça semble aller très loin, ça.
Mais oui, un amour dingue. Dès que sa mère quittait la maison, lui, il était tellement en manque comme d'une drogue qu'il ouvrait le panier en osier dans la lingerie et plongeait sa tête dedans pour respirer le linge sale, les culottes sales de sa mère. Et alors, quand sa mère, tout de suite après son
se père, remarie,
son
oui.
père est mmh. mort, et puis sa mère s'est remariée 19 mois après, ça, ça a été, il a toujours dit ça, le remariage de ma mère a été ma blessure fondamentale.
C'est terrible.
Et, du jour au lendemain, les femmes, pour lui, n'étaient plus rien. Et il avait aussi dit, depuis la première qui m'a trahi lors de ma prime enfance, j'ai dorénavant d'odieux stéréotypes à l'égard des femmes. En un mot, je ne leur fais plus aucune confiance. Et d'ailleurs, parmi ses amoureuses, la première lui a collé la bléno, oui. la deuxième lui la a collé syphilis. La syphilis. C'est, ouais. c'est pas ça qui l'a fait changer d'avis.
Hein. Ouais, non, c'est ça. Il est malade, hein, en fait. Il est malade toute sa vie de la syphilis. À l'époque, on la soigne pas comme aujourd'hui. Et il se drogue, du coup, avec de l'opium.
Voilà.
Des gouttes d'opium. Ah, on lui dit d'en prendre 7, 10 grammes maximum. Voilà. Il en prend...
1600 par jour.
Par jour
et, oui, par jour.
Ah, oui.
Et il prenait aussi de la confiture verte qui était oui. du hashish, oui. l'équivalent d'une barrette de shit à jeun dans le thé du matin. Il y a de quoi écrire des poèmes à la con. Hein,
bon, avant tout cela, en tout cas, il est provocateur. Il est insupportable.
Ouais.
Et son beau-père lui dit, tu vas faire une grande balade en mer. Et donc, il l'envoie sur un bateau pendant plusieurs mois. Il lui dit, tu vas aller vers Calcutta.
En Inde, ouais, voilà.
En Inde. Et il s'arrête à l'île Maurice.
Ouais.
Alors là, c'est incroyable parce que le capitaine du bateau n'en peut plus. Baudelaire se plaint parce qu'il n'a pas de livre avec lui. Ouais. Donc, il va dans une librairie
ouais.
sur l'île Maurice.
Non, à la Réunion.
À la Réunion, ouais, là, exactement. Ouais, ouais. Juste à côté, ouais. lors d'une escale.
Ouais.
Et à ce moment-là, il n'a pas d'argent. Donc, il propose au libraire réunionnais de payer avec ses vêtements, voilà. je cite, de Parisien.
Voilà. Et il est revenu sur le quai pour reprendre le bateau à poil, mais avec son chapeau haute forme. Oui. Et ouais, non, mais il était timbré.
Sur ta chevelure profonde, aux âcres parfums, mer odorante et vagabonde, aux flots bleus et bruns, comme un navire qui s'éveille au vent du matin, mon âme rêveuse appareille pour un ciel lointain.
Crénom Baudelaire de Jean Tellet est paru en poche chez J'ai lu.
La librairie francophone.
Allez, on passe à la chronique des libraires. Première partie avec les coups de gueule et les coups de cœur. Un coup de gueule en Belgique, Déborah Damblon.
Mais oui, un coup de gueule, Emmanuel. Mais un coup de gueule contre toute une situation, en fait, qui semble mais totalement inextricable mmh. par quelques bouts qu'on la prenne. On en a déjà parlé dans les coups de gueule à propos de la distribution ici.
Ah oui.
Mais derrière ça, en fait, c'est la détresse de toute une chaîne qui est palpable. Le manque de chauffeurs, la fragilité du personnel dans les entrepôts, les ruptures de stock, le manque de papier, la tension de la trésorerie des libraires, tout. Alors moi là, j'ai juste envie de rêver. Et s'il vous plaît, aidez-moi, faites-le avec moi. Si cette année, on s'ouvrait un tout petit peu l'esprit et on écoutait les conseils des libraires et on se contentait juste de ce qu'il y a en stock au lieu de s'accrocher à des idées et à des moulins.
Ouais. Allez, on va vous aider avec ça, au moins par la pensée. Merci Déborah. Un coup de cœur en France, Mathieu Colombe.
Oui, pour un petit roman de fantasy pour adolescents qui a tout d'un conte à la portée écologique et c'est aussi un gros coup de cœur de mon équipe d'Orion Jeunesse. C'est écrit sur un rythme rapide, les chapitres s'enchaînent les uns après les autres avec ce qu'il faut de suspense et de liant pour accrocher les yeux. À côté de ça, la symbolique de l'aventure et la créativité avec laquelle est abordé le merveilleux finiront de conquérir les lecteurs. En bref, de mon point de vue, c'est un bon petit roman jeunesse trépidant, émouvant, attendrissant et stimulant.
D'accord.
À mettre entre toutes les mains dès 12-13 ans.
Très bien, Estelle Faye, l'arpenteuse de rêves. Merci Mathieu. Voici à présent notre hommage à Marie-Claire Blais.
Mais c'est un long travail. Entêté, c'est un acharnement, mais en même temps c'est merveilleux de pouvoir parler de tous ces êtres-là. Je les entends comme si c'était une musique là. J'entends leur voix, je vois leur visage, je les vois, je les sens venir, et à travers ces voix-là, même quand c'est dans la grande détresse, il y a toujours un chant derrière, un chant joyeux quand même. La reconnaissance de vivre, peut-être.
Marie-Claire Blais est morte mardi à l'âge de 82 ans. Grande figure de la littérature québécoise et plus largement canadienne et francophone. Elle a marqué pendant plus de 60 ans son époque, habitée par ses personnages et son combat pour communiquer sa vision du monde. Prix Médicis en France en 1966 pour Une saison dans la vie d'Emmanuel, livre qui vient d'être réédité en poche chez Point. Soif restera aussi comme l'une des plus grandes fresques littéraires contemporaines. Prix Belgique-Canada en 76 pour l'ensemble de son œuvre, Marie-Claire Blais a aussi été l'une de celles et ceux qui ont donné une voix juste et bienveillante à l'homosexualité. Nous devions recevoir Marie-Claire Blais juste avant le Salon du Livre de Montréal où nous étions la semaine dernière, mais l'entrevue avait été reportée pour son nouveau roman paru chez Boréal et aux éditions du Seuil. Femme intelligente et subtile, d'une extrême gentillesse et d'une simplicité rare, elle restera dans nos mémoires. On va rejoindre tout de suite son éditeur chez Boréal, Jean Bernier, depuis Montréal. Bonjour Monsieur Bernier.
Bonjour Romain-Emmanuel, comment allez-vous?
Ça va, merci. Écoutez, je sais que vous étiez un intime de Marie-Claire Blais. Je vous ai dévasté depuis l'annonce de sa mort. Alors, toutes nos condoléances, avec toutes nos pensées aussi, d'abord. Merci d'intervenir dans la librairie francophone.
Très émouvant d'entendre sa voix. C'est la première fois que j'entends la voix de Marie-Claire depuis que je l'ai entendue la dernière fois. C'est très émouvant.
Alors justement, quel souvenir gardez-vous d'elle? J'ai envie de vous demander, que voulez-vous transmettre à ceux qui nous écoutent à travers la francophonie?
Oui, l'œuvre est là. Vous savez, il y a cet immense chagrin parce que c'était cet écrivain qui était un modèle pour tant d'écrivains dans son dévouement, son œuvre, dans son travail persévérant. Trois jours avant sa mort, elle écrivait toujours et depuis quelques jours, la douleur l'avait empêché de le faire. Et moi, je crois que c'est ça. Mmh. C'est ça qui était la vraie rupture. Mais on est encore un peu intimidé par cet immense bloc qui est soif. Et moi, je dirais, il faut ouvrir le livre. Il faut surtout pas avoir peur de la longue phrase parce que une longue phrase, c'est un mot à la fois, c'est une période à la fois. Et il faut surtout abandonner nos attentes de lecteur et puis se livrer à ce rythme, à ce mouvement qui nous emporte, à cette musique, comme elle le soulignait dans les propos qu'elle tenait pour vous à l'instant.
Vous parlez de soif, il faut juste dire aux auditeurs qui ne connaissent pas l'œuvre qu'à l'origine, ça devait être une trilogie. Finalement, elle en a fait 10 livres et certains ont dit que c'était une longue phrase sur une dizaine de livres. Car la ponctuation est très rare, il y a un tourbillon comme ça de personnages, un tourbillon de situations, elle arrive à dresser finalement une fresque contemporaine autour de l'Amérique, autour des Antilles, autour du Canada, tout est mélangé dans ce mouvement.
Pour moi, c'est très novateur, vous savez, bon, parce que c'est une œuvre qui est toujours en dialogue avec la réalité immédiate. Elle se voyait vraiment comme l'héritière de la grande tradition littéraire occidentale, ses modèles, et ceux à qui elle se comparait, c'était Faulkner, c'était Proust, c'était Virginia Woolf. Donc, partant de cette tradition de la grande littérature occidentale, elle avait une très haute opinion de la littérature et des pouvoirs de la littérature. C'était également d'amener cette longue tradition à embrasser toute cette nouvelle conscience qui émerge partout aujourd'hui, cette conscience tellement plus fine, tellement plus sensible pour le sort de tous les déshérités. Toute cette nouvelle façon de voir le monde qui est propre à notre époque, sont embrassées par cette œuvre qui voulait tout à la fois être classique, mais être ouverte à ce qu'il y a de plus contemporain et de plus immédiat.
Monsieur Bernier, pour ceux qui ne connaissent pas encore l'œuvre de Marie-Claire Blais, quel livre conseillez-vous aux auditeurs? Que peut-on lire pour la découvrir, sans aller jusqu'à Soif, parce que c'est assez long et c'est une vraie fresque?
Oui, mais Soif, vous savez, on peut lire n'importe quel des volumes.
Oui,
c'est comme
vrai.
Un cristal, vous savez, il y a toute la structure et dans chacun des morceaux. Commencez par où vous voulez. C'est vraiment une œuvre qui peut être lue dans l'ordre ou dans le désordre. Il y a bien sûr Le Sourd dans la ville, qui est un très très beau livre, et c'est là qu'elle a découvert, à un moment du Sourd dans la ville, cette longue respiration, cette longue phrase. On peut revenir à La saison dans la vie d'Emmanuel aussi, qui est l'exaltation du poète enfant, du désir d'écrire dans une famille très modeste, dans une société très très fermée. Petite cendre, la capture, le tout dernier qui est paru, qui vient de paraître.
Oui, Petite cendre.
En France et au Boréal.
Petite cendre ou la capture.
Et vraiment, vous avez là le résumé de toute son œuvre et de cette conscience extraordinaire.
Très bien, merci beaucoup Jean Bernier d'avoir réservé votre témoignage à la librairie francophone. On pense aussi à Pascal Assatieni, le patron de Boréal et de D-Media, que nous savons très ému par cette disparition. Toute notre équipe internationale pense à vous très fort. À bientôt Monsieur Bernier, merci.
Merci Monsieur Canada, au plaisir, au revoir.
La librairie francophone, Emmanuel Guérad.
Avec nous en plateau, l'éditeur, écrivain et poète Rodney Saint-Éloi. Bonjour Rodney.
Bonjour Emmanuel.
Vous dirigez les éditions Mémoire d'Encrier, vous êtes aussi poète et écrivain, et dans la lignée de Marie-Claire Blais, vous portez les valeurs humanistes de la littérature francophone. Que vous a-t-elle inspiré depuis que vous écrivez, vous?
Oh, là je suis resté un peu en fait, un peu scotché à sa voix. Quand elle dit « j'entends leur voix, je vois leur visage ». Et je pense qu'il y a tout un programme derrière la complexité de sa phrase. Jean Bernier en parlait avec beaucoup d'élégance. Et effectivement, ce qu'elle laisse, c'est cette complexité de la littérature. Parce que il y a tout un labyrinthe. Elle nous plonge dans ce que Édouard Glissant appellerait peut-être une certaine mondialité.
Ouais.
Je pense que c'est une écrivaine québécoise et qui dépasse l'horizon du Québec et qui déroule une certaine américanité. Et que je pense qu'elle parle du Québec, mais elle parle du monde. Elle parle de... Elle, sa voix résonne partout. Marie-Claire Blais est peut-être l'une des rares personnes qui écrivent et qui peuvent bousculer les horizons.
Mais c'est ce que vous faites d'ailleurs. C'est en cela aussi que Marie-Claire Blais est importante pour vous. La disparition soudaine a été un choc pour tout le monde littéraire québécois. Vous qui êtes haïtien, René Saint-Éloi, et au croisement des cultures, vous retrouviez chez Marie-Claire Blais les valeurs que vous portez aujourd'hui ?
Oui, parce que Marie-Claire Blais ne fait que déterrer les humanités. Et je pense qu'on a parlé de tourbillon, on a parlé de vertige, on a parlé de soif, en référence au cycle de romans de Marie-Claire Blais, qui a un grand goût du monde, parce que ce qui manque dans la montée du nationalisme, c'est un aveuglement. On ne voit pas le monde. Et Marie-Claire Blais a vu dans ses phrases le monde et a vu les détresses, mais je pense que c'est en face, c'est à l'extrême de la détresse, ce qui reste, c'est cette petite musique qui monte. Et on entend, quand on lit Marie-Claire Blais, cette petite musique qui nous rend meilleurs, qui rend l'homme et la femme meilleurs. Et c'est ce que vous avez demandé, quoi lire de Marie-Claire Blais.
Ouais.
Moi, je pense qu'il faut il faut lire Marie-Claire Blais, simplement.
N'importe lequel.
N'importe lequel.
Bon, avec le dernier roman dont on devait parler avec elle, Petite Cendre ou La Capture, qui vient de paraître en France, en Suisse et en Belgique, et en Europe plus largement aux éditions du Seuil. Et c'est chez Boréal, bien sûr, toute l'œuvre de Marie-Claire Blais. Merci René Saint-Éloi.
Merci Emmanuel.
Vous êtes ici chez vous, on vous retrouvera en janvier pour votre nouveau roman qui sortira début 2022 chez Héloïse Dormesson. À très vite donc, René.
Merci.
À bientôt. Et voici Fatoumata Diawara dans la librairie francophone, à suivre une balade avec Blaise Hoffmann en Asie.
C'était Fatoumata Diawara avec Bonia.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
Ici Radio-Canada Première.
RTBF La Première.
France Inter.
Et bonjour Blaise Hoffmann.
Mais bonjour Emmanuel.
Merci d'être avec nous depuis Genève. Vous sortez un récit de voyage inattendu, un voyage de 7 mois que vous avez effectué avec vos deux filles et votre compagne au Japon, comme Patricia Loison tout à l'heure, mais aussi en Thaïlande, au Sri Lanka, au Rajasthan. Vous partez faire des treks, vous découvrez la nature, les monuments et les cultures de tous ces pays traversés. Que recherchiez-vous, Blaise ?
Oh, comme d'habitude en voyage.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop.
Ouais.
On part déjà. C'est devenu, depuis 20 ans, c'est devenu une sorte d'hygiène de vie. Et en rentrant, on essaye de savoir pourquoi on est parti.
Ouais. Vous dites qu'au cours de ce voyage, vous retrouvez votre enfance. Vous écrivez « Je parle d'égal à égal avec les animaux, avec les arbres. Je suis de moins en moins une grande personne, de moins en moins le produit d'un peuple civilisé. »
Ouais, il y a un tourisme de masse qui nous déçoit un peu. Il y a toutes sortes de sentiments de culpabilité, de lassitude, toutes sortes de choses comme ça qui nous plombent, de connexion aussi, de voyages hyper modernes où on est entouré de géolocalisation, d'applications, TripAdvisor, Google Street View, etc.
Ouais.
Et puis, il y a ces filles, 2 et 3 ans, qui nous reconnectent véritablement aux gens et aux choses.
Ouais, mais c'est vrai que ce voyage touristique, il contribue, hein, vous avez contribué, dites-vous, à la muséification de la culture de ces peuples. Parce qu'effectivement, comme vous le dites, on y accède par Internet. Tout est là pour éviter de se couper du monde.
Alors exactement, je me suis fait plaisir puisque en voyageant en famille, donc c'était une découverte, on anticipe beaucoup, on s'impose un peu plus de sécurité, et puis là j'ai pu vraiment découvrir cet univers touristique, et puis je me suis fait plaisir en mettant beaucoup d'autodérision et de raconter les méfaits de mes propres actes.
Oui, vous faites de l'e-tourisme et ça vous dérange, comme lorsque vous allez sur l'île de Koh Samui pour Noël. C'est une île du golfe de Thaïlande. Pouvez-vous nous décrire cet endroit comme si on y était, Blaise Hoffmann ?
Oh, je pense que beaucoup d'auditeurs sauront de quoi je parle.
Ah bah non, moi je vois
c'est
pas.
C'est une île faite pour la consommation touristique. C'est une sorte de place de jeu pour adultes finalement.
Qu'est-ce que vous voyez quand vous arrivez sur l'île ?
On voit l'horizon, évidemment.
Oui.
Mais ce qui était intéressant, c'est que au-delà justement de ces vacances en fait, de ce grand vide, sur cette île, dans une boulangerie tenue par un Français, m'attendait vraiment à côté de la caisse enregistreuse. Il y avait une petite bibliothèque d'une dizaine de livres. Et il y avait Roger Caillois, oui. Pierre, un recueil de poésie qui a déjà 50 ans.
Mmh.
Et que je n'aurais peut-être pas lu autrement. Et sur cette île, j'ai dévoré Caillois et retrouvé, là aussi une entrée vers la poésie, la repoétisation du monde, vers l'émerveillement.
Vous êtes trop dans la poésie, Blaise, parce que quand vous avez un paysage, parce que j'ai vu des photos quand même, de cette île, Koh Samui.
Voilà.
Alors vous, au lieu de voir le lagon, vous regardez les livres, ce qui est pas mal, cela dit. Mais vous n'arrivez pas à décrire, du coup. Vous avez pris des photos, il paraît, quand même, beaucoup de photos.
Ah oui, des photos témoignages pour les filles, mais des photos qui ne servent pas à grand-chose pour l'écriture.
D'accord, et des grands auteurs aussi, pendant ce voyage, vous lisez de grands auteurs. Blaise Hoffmann, il y a Christian Bobin, par exemple, dans « Prisonnier au berceau ». Il s'adresse à ceux qui ont une vie simple et belle, mais qui finissent par en douter parce qu'on ne leur propose que du spectaculaire. Et ça résonne en vous à ce moment-là.
Ah, complètement. J'ai passablement écrit sur le voyage des récits peut-être beaucoup plus aventureux. Vous avez parlé de balade avant, balade en Asie, j'aime beaucoup ce terme, je vais le reprendre. C'était ça, c'était vraiment le contraire, vraiment de la compétition. C'était un voyage, c'était l'anti-Mike Horn. C'était une promenade à un mètre du sol, puisque j'étais à hauteur de la vue de mes filles, de nos filles. Et puis, vous vous êtes promené avec de jeunes enfants. Il n'y a jamais la ligne droite. C'est toujours des détours, des pauses, des répétitions, des petits
zigzag.
Rituels.
Mmh.
Et il y a de la lenteur, une merveilleuse lenteur.
Bon, allez, on va voir du côté de nos libraires ce qu'ils ont pensé de votre livre, Blaise Hoffmann, avec 2 petites maîtresses zen parues chez Zoé. On va commencer par la France, Mathieu Colombe.
Oui, alors il y a un côté de la littérature de voyage qui m'a toujours dérangé. C'est cette obligation à un moment pour l'auteur d'expliquer comment voyager, faire du tourisme, c'est très mal, mais que lui, éclairé comme il est un meilleur voyageur que le reste de la population. Bon, Fort heureusement, Blaise Hoffmann n'est pas totalement de cette trempe. Après, ce qui est le plus frappant vraiment dans cet ouvrage, c'est l'élégance de l'écriture, sa fluidité qui laisse le lecteur naviguer avec délice selon ses paragraphes. Et j'ai particulièrement apprécié la dernière partie de l'ouvrage qui rentre plus dans la temporalité et s'accélère de manière déterminée.
Très bien, la Suisse avec Dominique Bressoux.
Oui, alors moi, en débutant ce livre, je me suis dit « Ah, un récit de voyage à faire dans mon fauteuil ». Et en le refermant, j'étais presque décidée à ne plus en bouger de mon fauteuil. Parce que vous mettez le doigt sur ce qui fait mal. Cette fameuse globalisation qui rend toute destination peu sujette au dépaysement et à la vision en profondeur d'autres cultures, et qui surtout qui met en exergue la plaie des téléphones portables en main. Mais ce que j'ai retenu, c'est le bonheur de s'évader en lisant où que ce soit. C'est le livre de voyage qu'il fallait oser écrire en quelque sorte.
Bien, donc ça va, ça vous a plu finalement?
Oui, ça m'a plu.
Très bien. La Belgique, Déborah Damblon, avez-vous voyagé vous?
Oui, oui, j'ai voyagé, Emmanuel, j'ai voyagé. Je trouve que toute la richesse de votre livre, Monsieur Hoffmann, c'est d'être lent et puis de partager une foule de détails qui peuvent sembler anodins, mais qui racontent tellement plus de choses que les grandes explications. Alors, grâce à vous, je trouve qu'on voyage autrement, plus authentiquement, plus humainement. Vous nous ouvrez les yeux, peut-être sur une forme d'invisible.
Très bien, voilà l'avis de nos libraires, Blaise.
Ouais, merci beaucoup. Mais je pense que, déjà merci d'avoir pris le temps de me lire. Mais ce qui me touche, je pense qu'ils ont compris qu'il s'agit pas d'un récit de voyage, que le voyage est un prétexte, que c'est plutôt un récit sur ces filtres qui nous isolent, qui nous séparent de la réalité.
Dans votre livre Blaise Hoffmann, il y a une petite curiosité.
Puis j'aime bien repérer le petit détail que personne ne verra jamais.
La curiosité. Dans cette séquence, nous mettons en exergue un petit détail qui n'a pas de rapport fondamental avec l'ensemble du livre de l'un de nos invités, mais qui mérite qu'on s'y attarde. Blaise Hoffmann, page 113, alors que vous êtes en Thaïlande, vous découvrez un domaine viticole. Le domaine de Silver Lake, avec un immense parking, mais des vignes décoratives.
Exactement. C'était une grande déception. C'était de l'autre côté, non, parce que c'était vraiment représentatif, finalement, de la Disneylandisation de notre univers. Mais il faut imaginer un immense domaine que l'on visite avec des petits trains. On fait une petite promenade dans ce vignoble qui a aucune récolte, finalement. Et on apprend, en travaillant un petit peu le staff de cette grande cave vide, on apprend que le vin vient d'Australie. Et que c'est vraiment une boîte vide. Et moi qui me suis maintenant lancé dans le vin, donc je suis écrivain, vigneron. Ouais. Eh bien, ça, il y avait une ironie qui me parlait beaucoup.
Ouais, c'est terrible ça. C'est-à-dire qu'on importe du vin et on fait croire qu'il est fait là-bas. Et vous remarquez d'ailleurs des cuves vides et très propres. Forcément.
Exactement. Par contre, il y avait un immense salon de dégustation avec une décoration. On se serait cru en Bourgogne. C'était très beau. C'était vraiment très beau. Mais le vin n'était pas de là, non.
Bon, le 22 mars 2020, vous rentrez en Suisse. Et là, c'est un nouveau choc car votre pays a changé. Les rues de Genève et de Morges sont désertes.
Oui, alors le livre s'arrête là. Hein. J'ai voulu raconter ce que tout le monde a vécu. Par contre, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est de raconter l'arrivée de cette pandémie depuis l'Inde. C'est-à-dire qu'il faut quand même comprendre qu'en partant dans ce voyage, nous, on était victimes, donc 7 mois auparavant, d'une autre épidémie, l'épidémie de dengue. Donc en Asie, on est habitué à cette chose-là. Et puis en arrivant en Inde dans les derniers jours, cette pandémie, on l'a vu arriver par les médias, de loin. Je lisais Sepulveda, du reste. C'était une lecture du hasard sur les routes. J'apprendrai après qu'il sera décédé du Covid. Ouais. J'étais à Pushkar, donc mon corps était à Pushkar en train de faire la fête de la couleur. Donc des foules immenses qui se collent et qui se lancent des pigments colorés au visage. Et puis ma tête, elle était quand même raccrochée aux médias européens qui racontaient l'enfer qui était en train d'être vécu en Italie. Et ça donne un vertige, vertige que j'essaie de raconter.
C'est vrai que votre livre est un vertige aussi. Merci beaucoup Blaise Hoffmann. Deux petites maîtresses zen est paru aux éditions Zoé. À bientôt Blaise.
À très bientôt.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Les coups de gueule et les coups de cœur. Deuxième partie, on reste en Suisse. Dominique Bressoux, un coup de gueule ou un coup de cœur?
Non, un coup de cœur de poésie.
Allez-y.
Pour Sangria.
On reste dans la poésie. Sangria. Vous avez entendu.
Oui. L'extincteur et l'incendiaire, c'est un très très beau titre.
Oui.
C'est un album qui a été créé sous la direction de Daniel Maghetti aux éditions de La Baconnière. Alors tout est dans le titre justement, plutôt incendiaire qu'extincteur. Charles Albert Singria, écrivain, poète, musicien suisse mort en 1954, qui circulait partout à vélo, a laissé d'abondantes archives sur les supports les plus divers imaginables, et ce livre nous en donne un aperçu éblouissant. Des lettres, des photos, des collages, des manuscrits enluminés et intercalés entre les reproductions, de courts chapitres nous donnent un aperçu de sa vie et de son parcours. Alors pour les amoureux de cet artiste et ceux qui vont l'être, c'est vraiment le livre à acquérir.
Bien, avec une préface de Valère Novarina. Merci beaucoup Dominique. Un coup de gueule au Canada, Mike Vienno.
Oui, c'est le loup qui voulait faire le tour du monde en musique chez Ozu. C'est un album jeunesse truffé de bêtises, de fausses informations et de clichés énormes, avec des accompagnements musicaux qui sont totalement ridicules. Il faut voir comment on représente le Québec avec des stéréotypes totalement canadiens. Ouais. La voix qui interprète une chanson même pas représentative du Québec est fausse et lance un mouin insipide qui fait juste mettre en valeur non pas notre langue, mais l'ignorance des auteurs. Si on présente aux enfants les autres pays autant de lieux communs, de clichés gras et de stéréotypes obsolètes, faut pas se demander pourquoi les enfants préfèrent rester dans leur chambre.
Eh ben, dis donc. On est servi. Oriane Lallemand, elle est de quelle origine? Elle est québécoise?
Non, pas du tout. Ben, j'imagine que non, je sais pas.
Ah ben oui, on imagine que non, du coup. Bon, on n'ira pas ce livre. Bon, ça nous a pas plu du tout. Il est énervé, Mike.
Non.
Bon, merci beaucoup, Mike. À bientôt. Avant de conclure, on écoute le son de l'outre-mer avec la Guadeloupéenne Cynthia Abraham. Voici un extrait de Missie Mende. Aïe, 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 aïe. C'était Cynthia Abraham, originaire de la Guadeloupe, avec un extrait de Missie Mende. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. À la réalisation, Frédéric Milano avec Gilles Gaillard. À la rédaction, Jean-Philippe Verret et Christophe Magère de France Inter, avec les équipes de la RTS, de la RTBF et de Radio-Canada. La semaine prochaine, le grand voyage francophone continue. Très bon week-end à tous et bonne semaine.